Alors, pour vos soirées barbecue, cromignon.com.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
10h37, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est le 418-971-102.1 pour nous rejoindre par texto. La beauté de travailler avec Audrey Pinchot, c'est qu'elle trouve toujours des petits trésors, des petits sujets qu'on entend très peu parler, mais qui sont hyper importants dans nos vies. Et c'est encore une fois le cas aujourd'hui. Elle nous parle des paramédics communautaires. C'est le journal qui a sorti en début d'année un dossier sur les pires délais ambulanciers au Québec. Moins de 10 minutes, ce serait le délai privilégié pour l'arrivée d'une ambulance en situation urgente. Pensez juste à une crise de cœur. Quelqu'un qui fait un arrêt du cœur, 10 minutes, c'est long en sacrifice. C'est long pour vous, c'est long pour la personne qui vous voit faire une crise de cœur, puis c'est long aussi pour les ambulanciers qui disent « Oh boy, on arrive à une place, puis on ne sait pas si on va être capable de réchapper la personne. »
C'est littéralement une question de vie ou de mort. Puis tu sais, quand ce palmarès-là était sorti, nous autres, on faisait pas super bonne figure. À Saint-Augustin-de-Desmaures, 18 minutes, c'est les données qu'on avait. Fait que tu te dis « OK, c'est quand même gênant. Il est où le problème dans la région? » Puis c'est pas nécessairement un problème d'employés plus que de véhicules, de ce qu'on comprenait en début d'année, du moins. Puis bien, je suis tombée sur un article de la presse dans les derniers jours où on parlait de paramédecine communautaire qui pourrait en fait peut-être être une solution à long terme, autant pour les urgences qui sont engorgées que pour justement le déplacement peut-être non nécessaire dans certains cas. Puis à Québec, mettons qu'on se ramène chez nous, en 2020, on avait implanté un genre de projet pilote pour de la paramédecine communautaire. Paramédecine communautaire, en gros, là, c'est un paramédic dans une auto qui se déplace pour aller voir si c'est urgent, si c'est pas urgent, comment on gère la situation.
Faire un tri.
Totalement, faire un tri d'avance avant d'amener les gens à l'hôpital, tu sais. Ça n'a pas duré pour ce qui est de Québec. À Lévis, c'est un projet de référencement qu'on a depuis quelques mois, mais la paramédecine communautaire n'est pas encore entrée non plus. Et là, il y a David Ouellet. David Ouellet, lui, fait partie du projet de paramédecine communautaire en Montérégie pour ambulance de Mers. C'est en vigueur depuis 2019 et lui travaille directement avec les personnes âgées, parce que souvent, il y a une bonne majorité des cas, quand tu appelles au 911, qui sont des personnes âgées qui, bon, soit ressentent un petit mot à quelque part. Malheureusement, il y en a qui ont juste besoin de compagnie. Tu sais, Yann, je t'ai présenté un dossier l'année passée où je t'allais passer une journée en ambulance. Sur les cas qu'on a eu dans la journée, la majorité, c'était ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes âgées qui se sentent seules aussi. Fait que ça permet de faire le tri à ce niveau-là aussi. C'est une façon de voir si ça pourrait être une solution pour nous dans la région. David Ouellet est avec nous ce matin.
Salut, David. Merci de nous donner l'entrevue ce matin. Je sais que vous êtes pas mal occupé ces temps-ci. La paramédecine, paramédic communautaire, bon, c'est de la paramédecine communautaire. Vous êtes en Montérégie. Vous avez à peu près combien de patients par année qui en bénéficient?
Je n'aurais pas les chiffres exacts pour vous dire ça. Je voudrais, en moyenne, nous, on offre un service. On est affilié, dans le fond, avec les infirmières du CLSC. Là, on est, dans le fond, du soutien à domicile. On donne un service de 7h à 22h en lien avec les horaires des infirmières avec qui on travaille. Je vous dirais, en moyenne, par jour, dépendant des secteurs où ce qu'on est, on peut faire 4 à 6, 8 appels. D'autres secteurs qui peuvent rouler encore même plus. Là, on a un secteur à proximité de notre région, nous à Longueuil, où ce que le service se donne aussi. Et je pourrais vous dire que ça peut aller peut-être jusqu'à 10, 12 patients qui sont capables de voir dans une journée. Parce que dans le fond, nous, nos appels, nos interventions, nous, au niveau communautaire, ils durent un peu plus longtemps. En moyenne, pour un ambulancier, pour une équipe de paramédics qui vont sur une intervention,
ouais,
en général, ça dure en bonne 20 minutes. Moi, je vous dirais que je pourrais être sur les lieux des fois là, jusqu'à 60 minutes, 70 minutes là, à cause de l'évaluation puis le topo que je dois faire.
Parce qu'on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres en Montérégie, mais on a les chiffres à la grandeur du Québec. Ce serait 4200 patients par année qui bénéficieraient de la paramédecine communautaire.
Et pour l'instant, je pense qu'au Québec, les seuls qui font ça, la paramédecine communautaire, c'est nous, dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu puis Longueuil. Fait que probablement que ce serait c'est juste nos chiffres à nous, ce problème que vous avez.
C'est quoi, mettons, votre quotidien comparé? Tu sais, je veux que les gens comprennent bien ce que c'est là, être paramédic communautaire, contrairement à être paramédic en ambulance, je vais l'appeler comme ça. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ton quotidien et ce qui fait la différence?
Moi, dans le fond, c'est quand une personne va communiquer avec le 911. Nous, il y a un algorithme qui est fait au 911. Après, le monde se trouve ça souvent long. Pourquoi ils me posent autant de questions? C'est que nous, ça va nous donner une priorité et des codes. Selon les priorités et les codes que ça va donner, moi, je vais couvrir tous les appels qui sont de basse priorité ou ce qu'on a jugé après le questionnaire qui a été fait au niveau du 911, qu'il n'y a pas de danger de vie ou de mort pour les gens qui sont là. Et je vais faire les appels, nous, dans notre jargon, c'est des P4, des P7, dans le fond. Je vais me déplacer sur ces appels-là. Nous, pour l'instant, le service qu'on offre, c'est pour les gens de 65 ans et plus. Fait que je vais me déplacer sur une intervention où il y a quelqu'un qui a mal un genou, mal un poignet, une chute. Puis moi, rendu là, rendu au domicile, j'ai des critères, des consentements à faire accepter au patient parce que le patient, il peut refuser de faire partie du projet que nous. Parce qu'à la base, c'est un projet de pilote. Fait qu'on est constamment en évolution. On se fait constamment surveiller. Fait que moi, je lui demande les consentements s'il veut participer. Je lui explique un peu le projet. Comme moi, mon objectif, dans le fond, c'est après mon évaluation, puis ma co-évaluation que j'ai faite avec l'infirmière, si on a jugé d'un commun accord que le patient il est stable, puis qu'il n'y a pas de danger de vie ou mort pour lui, on peut lui proposer une alternative de l'urgence. Dans les meilleurs des mondes, si le patient, il a un médecin de famille, souvent, on va essayer de le référer à sa clinique. Si ton médecin il est disponible, on va le faire voir par son médecin de famille. Sinon, on va essayer de prendre un médecin qui est à la même clinique. Sinon, on a des cliniques alternatives où ce que eux ils prennent aussi un rendez-vous, que nous, on a des plages horaires qu'on est capable de leur boucler un rendez-vous dans la journée même ou dans le délai de 24.
Puis il faut dire que
Le service que nous.
c'est bon pour vous, mais c'est bon aussi pour le patient qui n'a pas à attendre après ça un genre de 8 heures à l'urgence. Puis c'est comme une bonne affaire des deux côtés, là.
Oui, puis 8 heures, vous êtes généreuse, là. Je vous dirais que quelqu'un qui se déplace à l'urgence pour une douleur à un poignet ou. Il peut attendre 8, 16, 12 heures avant de voir un médecin. Il ne sera pas priorisé. Fait que moi, dans le fond, c'est quand j'arrive là, une fois que j'ai fait toute mon évaluation, mon 360, quand je fais une co-évaluation avec une infirmière, on en revalide toutes les informations, les signes vitaux que j'ai faits. Si jamais le patient tombe dans une zone grise, qu'on ne sait pas quoi faire, on peut communiquer. Nous, on a un médecin qui nous chapeaute. On passe avec le médecin, on lui dit que j'ai tel cas, est-ce qu'il serait plus propice d'aller à l'urgence? Lui, il va être capable de nous réorienter, de nous orienter sur notre décision si jamais. On n'est pas certain.
OK. Mais dans les
Mais
cas
c'est ça.
de...
Nous, on fait un 360 là, degrés. Là. Si jamais, à ton exemple, je vois pour quelqu'un que je suis une chute accidentelle, c'est vraiment parce qu'il s'était enfargé dans les fleurs du tapis, excusez l'expression, que malgré tous les tests que j'ai faits après pour savoir si c'était pas un AVC ou un arrêt cardiaque, pas un arrêt cardiaque, excusez, une syncope qui pourrait être reliée à un problème cardiaque, j'ai des tests à faire pour m'assurer qu'il est capable de rester chez lui, il faut que je sois en compagnie. Puis si jamais il accepte d'être le rendez-vous, le défaut avec notre service, nous, c'est qu'on n'offrira pas de transport. Jamais dans aucun cas, moi, je vais faire de transport. Je me déplace vraiment avec un petit véhicule. C'est pas une ambulance que je vais. Puis si le patient y accepte, souvent, il faut qu'on s'organise avec un membre de la famille. Si le patient il a pas le moyen de conduire ou s'il n'est pas apte à conduire, il faut s'organiser avec des taxis ou des familles, un voisin pour s'assurer qu'il se rende à son rendez-vous de façon sécuritaire.
Okay, mais dans les cas de brûlure ou dans les cas, tu sais, de foulure au poignet, est-ce que vous appliquez des bandages? Est-ce que vous pouvez faire certains traitements à ces patients-là?
Bien, pour des foulures, c'est sûr que je peux appliquer des bandes élastiques qu'on
Oui.
appelle. C'est sûr que s'il y a une déformation, je vais essayer de l'immobiliser. Comme ça va arriver des cas là, où il y avait des fractures, puis on est capable avec le médecin de famille s'arranger, puis passer une passe droite, puis que le patient puisse aller dans une clinique alternative pour prendre des radiographies, puis après ça, se faire céduler ses rendez-vous. Mais des gens qui ont des déformations, là, ils peuvent avoir une atteinte neuro. Fait que ça va dépendre de l'évaluation. Généralement, eux, on ne compte pas le choix de les faire passer par l'urgence.
OK.
Souvent, les gens qui ont des déformations, puis ça arrive pas en P4, P7, là, c'est assez rare, là. Si ça arrive qu'il échappe au niveau du 91, moi, quand j'arrive, souvent, je vais être capable de dire non, c'est pas une P4, c'est un peu plus urgent.
OK.
Je peux reconfigurer, dans le fond, l'intervention, l'appel, si on veut.
Fait que vous n'avez pas tout le même matériel, mettons, que dans une ambulance pour commencer les soins sur place s'il y a un problème, de ce que je comprends.
Oui. Oui, j'ai tout dans mon véhicule, là. Si j'arrive, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé parce que ça fait 17 ans que je suis ambulancier, là, puis des fois, les gens pensent que le patient il dort. Finalement, le patient il dort pas, il est en arrêt cardiaque. Fait que, oui, si moi j'arrive puis que je constate ça, oui, je suis en mesure de faire j'ai tous les médicaments, j'ai tous les appareils pour débuter, mettons, les manœuvres de RCR en attendant que mes collègues arrivent. Moi, je suis constamment en communication avec notre centre de santé, là, le 911, si vous voulez appeler ça pour vous, là. Fait que moi, je suis un radio, je suis capable de leur dire parce que je leur donne un code, puis ils m'envoient une ambulance très rapidement. Parce que moi, dans le fond, je fais le tri, j'ai une application, j'ai un ordinateur où ce que je vois tous les appels du 911 rentrer. Puis je suis capable de savoir d'avance s'il y a des appels qui m'attendent ou s'il y a des appels qui pourraient s'en venir. Là, nous, on a beaucoup de statistiques dernièrement. Là, ça fait 3 ans qu'on fait ce projet-là. Fait que là, ça avance, ça évolue. Depuis quelques mois, là, on peut même se déplacer, nous, sur des appels qui sont jugés de priorité 3. C'est mis urgent. Mais souvent, les répartiteurs musicaux d'urgence, quand ils prennent des notes, ils vont laisser des petites notes, nous, dans les cartes d'appel, si on peut dire. Puis des fois, avec ce qu'ils écrivent, je suis capable de voir si ça pourrait être un appel qui pourrait être pour moi ou pas.
Parce que là, faut mettre les gens en contexte qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Là, c'est 1 à 7. 1, de ce que je comprends, c'est les flashs, ça va vite sur l'autoroute, puis il y a peut-être une possibilité, genre, de décès. C'est très, très urgent. Puis 7, c'est quelque chose qui n'est pas urgent, qui peut attendre. Donc, c'est ça?
Exactement. On a même une P0, on appelle. Là, les P0, c'est comme vous le dites, là, ça va être les gens en arrêt cardiaque, ceux qui sont inconscients, des chocs anaphylaxiques. Toutes les urgences, comme je vous dis, ça dépendait du questionnaire qui a été répondu dans le forum, nous, ça se catégorise. Fait que, okay. Oui, P0, c'est si vous voyez une ambulance se déplacer avec les gyrophares, les sirènes, c'est parce qu'on s'en va pour quelqu'un qui est en arrêt cardiaque ou en arrêt respiratoire. Toutes les pires cas, là.
David Ouellet, bon là, tu fais partie de ce projet de paramédecine communautaire-là depuis bon 3 ans, tu le dis. Ça prend quoi pour qu'un projet comme ça puisse aller de l'avant? C'est important pour nous de faire le parallèle avec ce qu'on fait pas ici en ce moment, qui pourrait peut-être être utile à la région. Là.
Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Là. Moi, je suis un petit pion dans toute l'équation. Là. Il y a vraiment énormément de gens qui sont autour de nous qui ont pris cette décision-là. C'est sûrement pas aussi... pas dans toutes les dossiers. Fait que c'est ça, pour moi, de vous orienter là-dessus, c'est difficile. Là. Moi, j'ai levé la main quand ils ont levé le projet, puis j'ai décidé de participer parce qu'ils nous donnent une formation supplémentaire pour pouvoir faire ça.
Ouais.
Vu que c'est un projet pilote actuellement, et éventuellement, si ça devient vraiment une catégorie de paramédic officiel, probablement qu'il va y avoir des cours universitaires pour réussir à devenir, avoir le titre d'emploi, là, comme on a des paramédics de soins avancés, c'est la même chose. Là. Mais c'est en collaboration, nous, avec le CIS de Montérégie-Centre, ici. On est comme chapeauté, dans le fond, par l'hôpital. Fait que, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde au-dessus de nous là, qui prennent des décisions, qui ont réussi à implanter ce projet-là, je vous dirais, là, au niveau de la Montérégie.
David Ouellet, on le sait, santé coûte cher au Québec. Là. Est-ce que le paramédic communautaire, ça peut sauver des coûts?
Oui, énormément. Je vais vous épargner le prix des coûts d'une ambulance, mais faire déplacer une ambulance avec deux paramédics dedans, plus tout le matériel... les gens d'en bas sur les 5 ans et plus, ils reçoivent une facture, mais ils reçoivent peut-être le 1/8 de ce que ça coûte pour de vrai. On sait aujourd'hui, avec la RAMQ et tous nos projets sociaux, on ne s'en rend pas compte, là, mais pour les gens qui ont été transportés aux États-Unis, je vous dirais que la facture est assez salée là, pour un coût de transport en ambulance. Fait qu'ici, on est chanceux au Québec, là, parce qu'il y en a plusieurs que le transport est gratuit. Fait que oui, moi, je me déplace, je ne suis pas dans une ambulance, je suis tout seul. Fait que c'est sûr qu'il y a des coûts vraiment diminués par rapport à un transport ambulancier.
Ça peut être une belle porte de sortie pour les paramédics en fin de carrière, la paramédecine communautaire. Tu sais, j'ai lu qu'on prolonge aussi la carrière de plusieurs paramédicaux parce que c'est très, très physique, il faut le dire. Il faut être capable de lever des patients. Vous vous trouvez dans toutes sortes de situations. Est-ce que tu es d'accord avec ça, le fait que ça peut peut-être faire en sorte qu'on a des gens qui resteraient plus longtemps dans le métier avec cette porte-là de sortie comme possibilité?
J'aimerais ça, là. Ça à suivre pour la suite des choses. Là. Comme vous le dites, on travaille fort. On doit lever les personnes dans des endroits pas propices pour justement qu'on puisse les manipuler. Sur la paramédecine, moi, je vais faire des relevés du sol avec un appareil. Fait que je vais être capable d'utiliser mes bras. Je dois forcer un peu, mais c'est sûr que je force de façon adéquate. Puis si je ne suis pas capable de déplacer le patient, je vais être obligé de faire venir une équipe pour me supporter. Mmh. Fait que oui, ça nous fait une belle porte de sortie pour les paramédics qui sont intéressés à ce projet-là. Et d'aller de l'avant, quand je vous dis, il y a des études à faire. Par contre, c'est pas. C'est encore un projet pilote, là, mais la journée, ce ne sera pas un projet pilote, il va y avoir des critères pour pouvoir avoir accès à ce poste-là. Mais oui, ça nous fait une porte de sortie parce que pour l'instant, nous, si on ne s'en va pas en gestion, on est obligé de rester en arrêt de l'ambulance. Et on n'a pas d'autres portes de sortie comme dans d'autres corps de métier qui pourraient avoir des alternatives ou ce que. On peut se ménager physiquement.
Mais souvent, c'est rare qu'on voit les policiers à 65 ans. C'est rare qu'on voit des soldats à 65 ans. Vous avez des jobs extrêmement physiques. Les portes de sortie sont très rares. Puis comme tu le dis, ce serait une belle opportunité pour les gens qui sont en fin de carrière de s'en aller là-dedans et tout ça. En moyenne, une carrière comme ambulancier, ça peut durer combien de temps? Puis à quel âge vous pouvez commencer à prendre votre retraite?
Si je me fie à mon fonds de pension, ils me disent qu'ils font des 5 ans. Dans le fond, quand je vais prendre ma retraite, ça va faire 43 ans, je fais de l'ambulance. Je ne sais pas si mon corps va suivre encore là.
Ouais.
Parce que notre métier, dans le fond, il est extrêmement jeune. Là. Ça fait une quarantaine d'années peut-être que ça existe vraiment comme ambulancier. Jadis, c'était les salons funéraires qui transportaient les gens.
Corbillard.
Go, 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 vite, on va le chercher pour voir les corbillards. Notre métier est jeune, on n'est pas encore reconnu comme professionnel. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour justement que ça change. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu derrière comparativement aux autres professionnels qui sont dans le milieu de l'urgence, je
Mais
vous
ça
dirais.
avance-tu, ça? Allez-vous avoir un ordre éventuellement, quelque chose?
C'est à suivre. On entend des oui-dire, mais c'est toujours très long. Je ne voudrais pas me prononcer là et me faire taper ses doigts parce que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Fait que je ne pourrais pas vous le dire, mais je sais qu'on est sur la liste d'attente pour un jour devenir professionnel. Voyez-vous, déjà au moins, moi, dans le temps que j'ai commencé, c'était une attestation d'études collégiales. Ça prenait 11 mois pour devenir ambulancier, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu un diplôme d'études collégiales. C'est 3 ans au cégep. Il y a, comme je vous dis, là, depuis quelques années, on a la possibilité de devenir paramédic de soins avancés, dans le fond. C'est un cours universitaire. Eux, ils se promènent, puis ils ont plus de 32 médicaments qu'ils peuvent administrer. Ils peuvent faire complètement un arrêt cardiaque sur les lieux, donner tous les médicaments que nous, on n'a pas pour qu'on transporte à l'hôpital pour réussir à faire ça.
Ben vous
Fait que, comme
êtes
je vous dis, ça va être tranquillement, pas vite, on est en train de dessiner notre arbre où est-ce qu'on va pouvoir avoir des alternatives.
Le stress, vous gérez ça comment, le stress, les ambulanciers, les ambulancières? Tantôt avec Audrey, il y a une histoire qui m'est arrivée en tête. C'était deux filles qui étaient en pause, c'était des ambulancières. Ils étaient en pause au Burger King dans le secteur de Lebourgneuf, là, tu sais, sur le bord de l'autoroute de la capitale. Puis ils ont eu un call pour un arrêt cardiaque à l'autre bout de l'île d'Orléans, donc sur la pointe est de l'île d'Orléans. Les filles ont dû arrêter leur pause, bien entendu, parce qu'il y avait une urgence, mais en partant, à la distance qu'il devait faire, il savait que c'était terminé pour le patient. Ça doit être épouvantable, ça, vivre ça dans le véhicule. T'sais, on essaie d'aller le plus vite qu'on peut, le plus raisonnablement possible, mais à l'arrivée, on sait que ça va être terminé pour le patient. Vivre ça à tous les jours, ça doit être hallucinant, David.
Ça fait partie du métier, comme je vous dirais. Mais tu sais, le pire, c'est quand on arrive, c'est les familles. Et les familles, souvent, ils ont bon espoir, comme vous le dites, là, au bout de l'ordonnance, de traverser le pont, ils ont peut-être 15 minutes de transport, 20 minutes de transport. C'est sûr que quand on arrive là-bas, les gens ont bon espoir, ils pensent que ça se passe comme dans les films, puis que nous, en se mettant les mains dessus, on va réanimer la personne. Mais dans un délai aussi longtemps, on le sait, nous, au final, on commence l'intervention, puis on sait déjà pas mal la conclusion de quoi ça va avoir de l'air. Fait que je sais qu'on vient qu'on se prépare avec les années d'expérience, plus qu'on en fait. Je ne peux pas vous dire qu'on s'habitue à ça, mais on vient qu'on se prenne carapace, puis c'est les dangers du métier. On
Mais
est tous
avez-vous
à
de
fleur de peau à un
l'aide?
moment donné.
Avez-vous de l'aide
Pardon?
psychologique? Tu sais, quand vous tombez sur des cas comme ça qui sont super difficiles, est-ce que vous avez le droit de prendre le reste de votre journée? Avez-vous une aide qui vous supporte au quotidien?
Ça commence. Avant, les chocs post-traumatiques, c'était peu reconnu. Là, je voudrais qu'on commence à avoir du retour là-dessus. Fait qu'on commence à avoir une ouverture puis un support. Nos superviseurs, souvent, sont formés pour seulement faire des debriefings post-gros événements comme ça. C'est propre à chaque entreprise, je vous dirais, là. Mais oui, ils commencent un petit peu à prendre soin de nous, quand ça arrive comme ça,
David Ouellet, un gros merci.
Mais ça fait plaisir énormément. Je vous remercie à vous aussi.
Bye
Merci,
bye.
passe une
À la
belle journée.
prochaine. David Ouellet fait partie du projet de paramédecine communautaire en Montérégie pour ambulance de Merse. La paramédecine dans ce secteur-là a commencé en 2019, puis ça
Oui.
fonctionne encore à ce jour. La question qu'on se posait ce matin, Audrey, c'est pourquoi on n'a pas ça ici?
Bien, moi, c'est une question à laquelle j'aimerais répondre éventuellement. Puis j'ai parlé à plusieurs personnes là, depuis hier qui auraient peut-être pu m'aiguiller là-dessus. Puis de ce que je comprends, c'est qu'en 2020, avec la pandémie, là, on a voulu implanter le projet pilote à Québec aussi. En fait, c'est du référencement surtout qu'on faisait finalement, là. Puis ça, bien, ils le font plus à Québec. Par contre, depuis une couple de mois du côté de Lévis, c'est en vigueur, là. On le pratique. Pour la paramédecine communautaire, on en parle depuis des années. J'ai eu comme des petits vents que peut-être qu'à l'automne, on installerait ça éventuellement du côté de Lévis, mais pour Québec, il n'y a rien en ce moment. Puis moi, c'est vraiment le fait que si on avait la paramédecine communautaire, ça nous éviterait peut-être d'envoyer des ambulances pour rien dans des situations où les gens n'en ont pas besoin. Puis le problème, c'est pas le manque de staff parce qu'il y en a plein de jeunes qui vont faire leur cours pour être ambulancier, ambulancière. Le problème, c'est les véhicules. Moi, j'ai ma cousine qui vient de terminer son cours, là. Puis elle a fait ses stages du côté de Lévis. Elle a trippé. Puis tu vois, c'était tellement compliqué qu'elle a fini par dire, bon, ben, regarde, moi, je retourne dans mon coin, sa côte nord. Fait que là, c'est à Sept-Îles qu'elle pratique son métier en ce moment, tu sais. Mais il y a un manque de véhicules. C'est mal fait. La première ligne est mal faite. fait. Puis les paramédics, c'est mine de rien. Puis David le dit tantôt, avant, c'était pas grand-chose d'être ambulancier. Tu transportais la personne à l'hôpital. Mais maintenant, être paramédic, t'es littéralement le premier maillon d'une longue chaîne. Ce qui se passe dans l'ambulance, au-delà des soins qui sont donnés, le côté, je vais dire, travailleur social que les paramédics ont maintenant parce qu'ils font énormément de santé mentale à travers tout ça, ça dirige ce qui va se passer à l'hôpital. Au niveau des soins, au niveau de comment ça va se passer avec le comportement, au niveau de mille et une choses, tu sais. Fait que ça pourrait être un projet qu'on pourrait implanter qui ferait bien du sens dans la ville de Québec, là.
Surtout si ça peut sauver des coûts, si ça peut sauver
des vies.
L'ambulance, elle, qui est portée à aller vers les cas plus critiques, on parlait tantôt des arrêts du cœur et tout ça, elle a peut-être plus de temps. Puis les couvertures aussi, je me souviens de Gaétan Barrette, dans le secteur de Lévis, il y avait quelqu'un qui avait eu une problématique de santé, qui en était malheureusement décédé, puis ça avait fait la manchette. Pourquoi? Parce que c'était un ambulancier qui avait eu un problème de santé. Il était décédé, puis écoute, les ambulanciers qui sont arrivés sur place, ils ont vu que c'était leur collègue de travail et tout ça. Puis là, Gaétan Barrette était revenu un peu plus tard parce qu'on parlait de la couverture ambulancière dans ces secteurs-là. Tu sais, peut-être moins centre-ville, quoique Lévis s'est rendu un bon centre-ville, on va se le dire. Gaétan Barrette avait dit, pour vous dire à quel point il pouvait être arriéré dans ses connaissances, là, on commencera pas à mettre une ambulance dans tous les rangs.
Ouais.
Ça, je m'en souviens. Puis je peux te dire que les ambulanciers, l'autre bord, à Lévis, ils s'en souviennent en sacrifice de ce que Gaétan Barrette avait dit dans le temps.
Ça avait été 21 minutes d'attente, le double du temps recommandé. Fait que non. Puis c'est frappant pour les travailleurs aussi parce qu'ils peuvent rien faire. T'sais, ils ont des secteurs à couvrir, là, des endroits où ils doivent être avec l'ambulance pour être capables de réagir. Mais des fois, ils manquent justement de véhicules ou l'horaire est mal fait, puis le corps est bien trop loin. Le temps de se rendre, ils perdent du monde. T'sais, c'est épouvantable. Puis déjà qu'ils se donnent tellement. Je sais pas, je trouve que c'est mal fait.
Puis en parlant avec David Ouellet, il nous a dit que le métier d'ambulancier est encore très jeune. Ben pour toi, c'est très, très vieux parce que ça dépasse ton âge, là. Mais moi, je me souviens pas des corbillards qui se pointaient, là, okay, pour m'amener à l'hôpital. Mais je me souviens de deux messieurs avec des moustaches qui sont arrivés chez nous, dans le logement à ma mère.
Avec une civière.
Ils sont rentrés dans la chambre. Non, il n'y avait pas de civière dans le temps. Ils sont rentrés avec chacun leur valise. Puis, ils essayaient de prendre ma température et tout ça. Puis, ils ne m'avaient pas transporté. Mais c'était les premiers balbutiements. C'était des petites voitures. Mm-hmm. C'était des petites, petites voitures. C'était pas des grosses ambulances comme on connaît aujourd'hui. C'était les messieurs qui se promenaient pour aller chez les gens, pour essayer de faire le mieux possible. Ma mère était monoparentale, tu comprends qu'elle avait pas, elle n'avait même pas de voiture. Elle ne pouvait pas m'apporter à l'hôpital. Fait que c'était les premiers balbutiements des ambulanciers, là.
Ah, c'est fou. Ben, ça a beaucoup évolué. Puis je leur souhaite éventuellement
un
ordre. Puis je... dans le temps.
temps.
Marchait du pied l'hiver. On allait à l'école.
À l'école.
Non, mais je leur souhaite, bref, que ce soit plus reconnu comme métier parce que c'est un métier